David vient de rejoindre également, c'est bon. Donc Michel, en deux mots, hein, tu es professeur de théologie des dogmes à l'Institut Saint-Serge, ici, chercheur associé au Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance. Tu as la particularité d'avoir obtenu un triple doctorat, ou un doctorat triple, je ne sais pas si... Ouais, à triple entrée en théologie orthodoxe, théologie catholique et histoire des religions sur la doctrine trinitaire de Nicéphore Blémidès à Paris 4, Sorbonne. Voilà, et un grand merci de nous rejoindre. Encore une fois, c'est malgré toi hein, ce décalage, puisque tu as eu des contraintes de santé au dernier moment. Et puis ensuite, les transports étaient... Mesdames et messieurs.
Et puis bonsoir. Et puis bonsoir à ceux qui nous suivent de loin. Alors, je ne sais pas si pour eux ça va être facile.
Bonsoir.
Oui, parce qu'ils me voient un petit peu sur le côté.
Oui, c'est bon, oui, c'est parfait.
C'est parfait.
Très bien. Donc, je vais vous présenter l'Église orthodoxe de manière assez synthétique. L'Église orthodoxe est une des trois composantes majeures du christianisme, avec le catholicisme romain et les églises de la Réforme. Et elle s'enracine dans le christianisme des origines, c'est-à-dire... je dirais la Pentecôte, qui est un peu l'événement fondateur de toutes les églises, chrétiennes. Historiquement, l'Église orthodoxe s'est développée surtout au Proche-Orient et dans l'Europe de l'Est et du Sud-Est, mais par la suite, des missions l'ont implantée jusqu'au nord Pacifique et en Afrique noire. Et puis enfin, les grandes migrations économiques et politiques du XXe siècle l'ont rendue finalement présente sur toute la planète, Occident compris. Il est difficile de définir l'orthodoxie dans une... Pendant un millénaire, l'Église orthodoxe s'est auto-désignée comme Église catholique d'Orient, sans que le mot catholique soit tributaire de Rome d'une manière ou d'une autre. Et donc, elle était en pleine communion avec l'Église romaine. La division s'est introduite progressivement, surtout avec la funeste Constantinople en 1204. On y reviendra. Mais les relations entre ces deux églises, même conflictuelles, n'ont jamais été totalement coupées. L'appartenance à l'orthodoxie ne se définit pas simplement à travers une confession de référence ni une culture, mais je dirais dans le partage ecclésial de la vie alimentée dans l'Écriture et les sacrements, dans la fidélité à la tradition des apôtres et des pères. Au plus fort des tensions entre chrétiens, l'Église orthodoxe ne s'est jamais définie contre une autre tradition. Et là, je voudrais citer un grand théologien orthodoxe russe du XXe siècle, qui a été le premier doyen de dire en 1925, donc le père Serge Bulgakov, dans son livre « L'orthodoxie », il dit la chose suivante, « L'orthodoxie est l'Église du Christ sur la terre. L'Église du Christ n'est pas une institution, mais une vie nouvelle avec le Christ et en Christ, mue par le Saint-Esprit. » Fin de citation. Donc on voit que cette définition veut sortir des barrières dites confessionnelles, et souligner finalement que l'orthodoxie, c'est plus un mode de vie conforme, que l'orthodoxie finalement se trouve dans toutes les confessions et qu'il faut la retrouver, y compris ce défi, y compris pour l'Église orthodoxe elle-même qui doit faire sa propre réforme spirituelle. L'orthodoxie concrètement se présente comme la communion entre 14 églises autocéphales, du point de vue de l'administration, et territoriales, qui partagent la même foi, la même tradition, les mêmes sacrements. Cette église est présente, je l'ai dit, sur tous les continents, même si elle se trouve en majorité en Russie et en Europe de l'Est. On estime que le christianisme orthodoxe a environ 230 millions de fidèles dans le monde. Alors je commencerai, vous avez le plan de l'exposé, par des repères historiques. L'histoire de l'orthodoxie offre un parcours complexe et contrasté. là où l'Église romaine brille par son unité, je dirais que l'Église orthodoxe brille non pas par ses divisions, mais par sa diversité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une complémentarité justement entre les deux églises, et ce qui fait que dans le dialogue ecclésiologique qui a lieu depuis 40 ans, il y a vraiment des ressources croisées entre les deux. Donc, ce qui impliquait que cette histoire est complexe. Elle est faite de crise et de renouveau, de mort et de résurrection. L'époque fondatrice de l'Église orthodoxe, c'est celle du premier millénaire, au cours duquel vivaient les pères de l'Église, c'est-à-dire les grands témoins de la foi, et durant lequel ont eu lieu les sept grands conciles œcuméniques communs aux églises d'Occident et de l'Orient byzantin. Ces conciles, vous avez la liste sur le plan. Il s'agit des conciles tout d'abord de Nicée en 325, premier concile, à Constantinople, et puis ensuite Éphèse, Chalcédoine, et puis Constantinople à nouveau, et on termine à nouveau par Nicée II, donc en 787. Alors, ces conciles, ils sont très importants pour l'orthodoxie, ce qui fait qu'on l'appelle, et elle s'auto-désigne souvent, comme l'Église des sept conciles. La matrice historique de l'Église orthodoxe. Vous savez que c'est le nom donné à l'État et à la culture de l'Empire romain d'Orient, au Moyen-Âge, après la fondation de la nouvelle Rome, Constantinople, par l'empereur Constantin en 330, dans un endroit stratégique situé entre l'Europe et l'Asie. L'Empire byzantin se considérait en fait comme romain, et donc c'était la poursuite de l'état de romain de l'Antiquité tardive. Et jusqu'au 7e siècle ont été maintenues les structures de la civilisation romaine, c'est-à-dire une civilisation urbaine, édifiée autour de grandes cités à population multiethnique. Sous l'empereur Héraclius, Byzance est devenue de facto un empire grec. L'usage du latin est tombé peu à peu en désuétude. Du 7e au 9e siècle, on constate une période de stagnation culturelle, marquée par la querelle des images, sur laquelle je reviendrai. Et c'est sous la dynastie macédonienne siècle que le pouvoir politique byzantin atteint son apogée. Le christianisme et la culture byzantine rayonnent auprès des Slaves et sont diffusés auprès des Slaves et des peuples voisins de la mer Noire et du Caucase, comme par exemple les Alains qui correspondent aux, qui sont les ancêtres des Ossètes d'aujourd'hui, et qu'on retrouve par exemple au XIIIe siècle à Pékin dans la garde personnelle de l'empereur mongol Kubilai. On sait qu'il y avait 30 000 Alains chrétiens. De stabilité du XIe au XIIIe siècle est celle de la dynastie des Komnen. Mais face aux dangers turcs, la société byzantine va se féodaliser. Et cela explique en partie le drame de 1204, lorsque la quatrième croisade, menée et détournée par les Vénitiens, va prendre Constantinople. La ville sera par les Latins pendant donc une cinquantaine d'années, ce qui marque, je pense, le véritable schisme entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. La cité sera reprise, mais l'Empire est malade et ne survivra que deux siècles. Cette période d'écroulement politique sous la dynastie des paléologues est paradoxalement l'une des plus riches en littérature et dans les arts. Mais les Ottomans y mettent fin brutalement le 29 mai 1453, par la prise de Constantinople. La Grèce et les Balkans seront peu à peu conquis par le sultan victorieux Mehmed II. La chute de Constantinople inaugure pour les chrétiens une épreuve de quatre siècles dont les conséquences vont marquer durablement l'histoire orthodoxe. Du 15e au début du 19e siècle, les chrétiens des Balkans et d'Asie mineure sont englobés dans l'Empire ottoman, un empire musulman, avec un statut de Rum Millet, littéralement nation des Romains, et c'est l'Église qui va sauver la langue et la culture. Pour les orthodoxes des Balkans, la nation et l'Église demeurent quasiment inséparables. À partir du XVIIe siècle, on observe un renouveau doctrinal et patristique qui se double bientôt d'un réveil spirituel. C'est ainsi qu'à la fin du XVIIIe siècle, sous l'impulsion de deux moines, est publiée une grande anthologie de textes chrétiens, mystiques et ascétiques. Il s'appelle la Philokalie, littéralement « Amour de la beauté ». Il s'agit de la beauté divine, de la beauté de la vision de Dieu. Et donc, cette publication de la Philokalie va circuler vers la Moldavie et la Russie. Il va y avoir de nombreuses traductions, d'abord en slavon et puis ensuite en russe au cours du XIXe siècle. Les Russes et les Slaves du Nord, qui avaient été baptisés par les Byzantins en Crimée en 988, autre chemin que les orthodoxes de Byzance. C'est celui, je dirais, d'une instrumentalisation de l'Église, progressive, hein, cette instrumentalisation de l'Église par l'État russe. La chute de l'Empire byzantin profitait au monde russe, et en particulier à Moscou. En effet, après le sac de Kiev par les Mongols, entre le métropolite de Kiev, qui était l'évêque principal pour la Russie, et qui dépendait de Constantinople, va partir s'établir loin au nord, à Vladimir, une grande ville située à 200 km à l'est de Moscou. Puis un peu plus tard, au XIVe siècle, il s'installe à Moscou, la résidence des princes de Moscovie. Le déclin de l'Empire byzantin va permettre à la Russie de s'émanciper. L'Église russe s'émancipe complètement. En 1448, le grand prince de Moscou désigne lui-même l'archevêque de Kiev et de Moscou. Et puis 10 ans plus tard, le synode érige le fait en droit, donc l'Église russe se déclare autocéphale. Cette ratifiée en 1589 par le patriarche de Constantinople, qui est, je dirais, le premier primat dans la communion des primats orthodoxes, donc aujourd'hui 14 primats, à l'époque. Il y en avait quatre dans l'Orient chrétien, c'est-à-dire les quatre grandes cités de l'Orient chrétien, en plus de Rome. Donc il y avait Alexandrie, Antioche, Jérusalem et bien sûr Constantinople, la seconde Rome. Donc ce qu'il faut souligner, c'est que en 1589, avec la présence du patriarche de Constantinople, Jérémie II, venu sur place, le métropolite de Moscou devient patriarche de Russie. Et précisons que les territoires correspondant à l'Ukraine et à la Biélorussie, alors partie, non pas de la Russie, mais du grand royaume de Pologne-Lituanie. Et ils ne seront intégrés à l'Empire russe que de façon progressive et à partir seulement de la fin du XVIIe siècle avec le démembrement de la Pologne. Mais au plan religieux, il en va autrement. Moscovie dépend encore de Constantinople depuis le baptême des Russes en 987. En 1686, le patriarche de Constantinople, Denis IV, envoie au patriarche de Moscou une charte qui confie à sa tutelle la métropole de Kiev, qui correspond en gros à l'époque qu'on n'appelle pas Ukraine, bien entendu, mais qu'on appelle Petite Russie. La Grande Russie étant en gros la Moscovie. Un peu plus tard, en 1721, le tsar Pierre le Grand proclame officiellement l'Empire russe et, influencé par le modèle de l'État luthérien, il supprime le patriarcat de Moscou. Alors, c'est quoi le patriarcat ? Bien, c'est l'institution d'un patriarche, c'est-à-dire d'un évêque primat, qui gouverne un territoire donné, donc une église autocéphale, avec toujours un synode autour de lui pour prendre les grandes décisions. Un synode composé d'évêques. Et donc, c'est cette structure synodale et ce patriarche que Pierre le Grand décide de supprimer en suivant le modèle de l'État luthérien. Et il le remplace par une instance qu'il appelle le synode, mais qui réunit en fait seulement certains évêques et un certain nombre de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires de l'État. et le dit synode, puisqu'il n'y a plus de patriarche, est présidé par un haut procureur qui est un laïc et qui obéit directement aux injonctions de l'empereur. Cette institution, en 1917, lorsqu'un grand concile de renouveau rétablit en Russie le patriarcat, mais le concile cesse brutalement ses travaux en 1918 avec la révolution bolchevique. Le pays va subir de 1922 à 1937 la plus terrible persécution jamais connue par le christianisme. Non seulement des centaines d'évêques, mais des milliers de prêtres, diacres sont massacrés. On a estimé le nombre de fidèles tués en Russie pour leur foi entre 500 000 et 1 million.
Excusez-moi, vous avez bien dit qu'ils étaient tués par le christianisme ?
Non, je n'ai pas dit ça.
C'est ce que j'ai entendu.
Non.
C'était pour ça que j'étais surprise.
Non, par les soviétiques.
Merci.
Ils ont été massacrés pour... Ce sont de véritables martyrs et c'est l'Institut Sainte-Icône de Moscou qui a fait ce travail complexe de dénombrement, mais évidemment qui est assez imprécis. Par la suite, les persécutions seront plus insidieuses et la liberté religieuse ne reviendra vraiment qu'à partir de 1991. Je passe à mon deuxième point, l'acquis des sept conciles œcuméniques. Comme nous avons peu de temps, je serai très bref et je dirais que ces sept conciles œcuméniques se découplent en fait en deux parties. Les deux premiers qui sont décisifs pour le dogme trinitaire, donc le concile de Nicée I en 325 qui établit et précise la divinité du Christ, consubstantielle au Père, divinité qui était contestée par Arius et ses adeptes. Et puis en 381, le concile de Constantinople I qui proclame la divinité du Saint-Esprit. Et donc se développe une véritable théologie et spiritualité trinitaire qui est défendue par les pères cappadociens, notamment trois célèbres, Saint Basile, Saint Grégoire de... Et puis nous avons cinq conciles qui suivent ensuite et qui sont des conciles essentiellement christologiques, c'est-à-dire qui vont préciser le mystère de la double nature du Christ, donc divino-humanité du Christ, face aux contestations qui contestent non pas le problème de l'arianisme, mais qui contestent l'unité de la personne du Christ. Certains pensent qu'il y a un sujet divin en lui qui est distinct du sujet humain, et donc c'est quelque chose de complexe. Certains nient en fait, en réalité, sa pleine divinité, en considérant que lorsque le Verbe est devenu chair, eh bien, son humanité a été quasiment divinisée. Or, justement, le concile de Chalcédoine, c'est-à-dire le quatrième concile œcuménique, en ce sens, est vraiment un modèle parce qu'il établit un véritable équilibre en reconnaissant deux natures, intègre et totale, de Jésus-Christ, c'est-à-dire totalement consubstantiel au Père, et là on rappelle le concile de Nicée I, mais en même temps consubstantiel à nous, les êtres humains, donc complètement consubstantiel à nous. Et c'est cet équilibre des deux consubstantialités qui permet le salut, à savoir que le Christ a pleinement assumé notre humanité, et qu'il peut donc la sauver. Alors la sauver de quoi ? La sauver de la mort et du mal. Et la sauver comment ? Par sa résurrection et la donation de la vie éternelle par le don du Saint-Esprit qui est fait dans l'Église. Et donc nous avons, après le concile de Chalcédoine, deux autres conciles de Constantinople II et III qui précisent encore la christologie, sur laquelle je ne m'arrêterai pas tout de suite, mais pour revenir éventuellement. Et enfin, le concile de Nicée II, qui défend la légitimité du culte des icônes. Alors, c'est une doctrine assez subtile. Il ne s'agit pas d'adorer des planches de bois qui représentent le Christ ou les saints, mais de vénérer les personnes qui sont représentées, donc à travers la représentation. Je passe au troisième point, les grandes affirmations doctrinales de l'orthodoxie. Ben, je dirais que, de façon générale, l'orthodoxie est une église peu dogmatique. C'est-à-dire qu'elle insiste sur le caractère ineffable du mystère de Dieu, qu'il s'agit d'abord d'un mystère vécu avant d'être pensé. Le penser, dans certaines circonstances, c'est parce qu'on doit répondre à des défis. Et ces défis, c'est ce qu'on appelle les hérésies, c'est-à-dire des vérités seulement partielles, au détriment de ce qui devrait équilibrer les dites affirmations. Une vérité dogmatique est toujours une vérité antinomique, c'est-à-dire qui dépasse la raison, qui peut être en partie expliquée par la raison, mais toujours partiellement. Les conciles doctrinaux se sont réunis toujours pour répondre aux défis que posait telle ou telle doctrine irrecevable. Pour les pères de l'Église d'Orient, le Christ, confessé à la fois comme Fils éternel de Dieu et comme homme maximum, porte en lui le cosmos entier et toute l'humanité. Donc il représente une existence personnelle absolue, c'est-à-dire en communion avec tout, et avec tous. Et c'est par son incarnation qu'il a pu affronter de l'intérieur, dans notre humanité, le mal et la mort pour offrir aux hommes les voies de la vie éternelle. Ce qui fait don en même temps du mystère trinitaire, puisque c'est lui, comme le souligne bien l'évangile de Jean, qui révèle le Père et qui révèle en même temps l'Esprit Saint qu'il envoie donc à la Pentecôte. Et dans cette optique, il révèle donc la Trinité. Et il faut comprendre que Dieu est tellement un, c'est-à-dire trois personnes et une seule nature. Qu'est-ce que ça signifie dans l'optique orthodoxe qui a été développée par les conciles et par les pères? Ben, ça signifie que Dieu est tellement un qu'il porte en lui l'altérité, le mystère de l'autre. Il est trinité, c'est-à-dire en même temps unité absolue et diversité absolue. Et en ce sens, le Dieu trinitaire est le modèle de l'homme unique, l'être humain unique, en une multitude de personnes. Donc l'orthodoxe révélé dans l'expérience de la communion humaine, cette communion qui est expérimentée dans la vie de l'Église, qui n'est ni fusion ni uniformisation. Cette communion qui se présente sous un plan horizontal, c'est-à-dire entre les êtres humains, et au plan vertical, entre les êtres humains et Dieu par le Fils dans l'Esprit Saint. Il y a aussi un autre paradoxe ou une antinomie, c'est le fait que Dieu est à la fois tout entier transcendant, inconnaissable dans son essence, qui nous dépasse totalement, qui dépasse complètement la création, non pas le péché, mais la création, le fait simplement que tout ce qui est ici-bas est créé et donc est totalement en dessous du pouvoir et, je dirais, de l'esprit, d'une part. Et puis, d'autre part, Dieu est en même temps, parce qu'il l'a voulu, participable par la grâce. Ce sont les fameuses énergies divines, la lumière du royaume céleste, qui est offerte dans l'Église à travers les sacrements et qui font de l'univers lui-même un buisson ardent qui brûle sans se consumer. Donc, ces énergies, disent les pères lors de la transfiguration du Christ, sont considérées comme remplissant toute chose. Et elles permettent ainsi aux créatures de s'accomplir dans la rencontre avec Dieu. L'être humain, en effet, a été créé à l'image de Dieu et il est invité à acquérir une ressemblance, participation avec Dieu. Donc, cela représente l'achèvement même de l'existence personnelle, c'est-à-dire porter en soi l'humanité et le monde dans des relations de communion. Je passe à mon quatrième point, quelques aspects de la spiritualité orthodoxe, et tout d'abord la liturgie. Le christianisme orthodoxe, en effet, est tout entier centré sur la foi en la résurrection du Christ, vainqueur de la mort, le matin de la résurrection. L'émerveillement de la résurrection, vécu de façon intense à Pâques, se transmet à chaque dimanche, premier et huitième jour, qui est le jour eucharistique par excellence. La liturgie eucharistique est considérée comme la synthèse de toute la réflexion théologique et de l'expérience spirituelle. Ce terme de liturgie signifie d'ailleurs « œuvre du peuple » et c'est avant tout par la liturgie qu'un orthodoxe éprouve son appartenance à l'Église. Autour de ce mystère des mystères qu'est l'Eucharistie, où tout est fait par l'Esprit-Saint à la demande du peuple rassemblé, et donc ce qu'on appelle l'épiclèse, l'invocation, se dispose une riche hymnographie qui insère les lectures bibliques dans un commentaire doctrinal et spirituel. Et c'est ainsi que la théologie des pères et des conciles se transforme en poésie. Tout est chanté ou psalmodié sans intervention d'instruments. La musique reste au service de la parole et utilise, qui sont issus à la fois des modes de l'antiquité gréco-romaine et de l'office de la synagogue. Les textes sont tissés de paradoxes qui développent deux antinomies fondamentales, celle du Dieu au-delà de Dieu, hyperphéos en grec, et du Dieu qui, par amour des hommes, s'est laissé crucifier. La liturgie n'est pas seulement l'annonce de la parole de Dieu, mais c'est une expérience anticipée du royaume de Dieu à travers une beauté paisible et lumineuse que les envoyés russes à Constantinople au Xe siècle ont décrite comme le ciel sur la terre. Et c'est ce qui les a conduits finalement à l'orthodoxie chrétienne. Alors, outre le sacrement central de l'Eucharistie que j'ai évoqué, l'orthodoxie connaît comme sacrement majeur le baptême, qui a lieu en général par immersion, selon la tradition ancienne, la chrismation ou confirmation, qui a lieu en général lors du baptême, le baptême s'achevant alors par l'Eucharistie. Donc, les tout-petits bébés, vous voyez, communient, n'attendent pas un certain âge de 7-8 ans ou 10-11 ans. Il y a également comme sacrement le pardon des péchés, la confession, le mariage, qui est présenté comme le sacrement de l'amour, l'ordination pour le clergé, il s'agit d'hommes mariés qui peuvent être ordonnés diacres ou prêtres, et l'onction des malades. Tous ces sacrements trouvent leur achat. L'orthodoxie considère que le mariage est unique et éternel. Elle ne favorise donc pas, tout en le permettant, le remariage des veufs. Elle permet le divorce, uniquement par compassion et considération des personnes. Et elle bénit le remariage des divorcés. Évoquons les aspects spirituels, évoquons le rayonnement des icônes. La vénération des icônes a été justifiée, je l'ai dit, par le 7e Concile œcuménique. En effet, avec l'incarnation, qui met fin aux interdits de l'Ancien Testament, Dieu s'est montré dans un visage d'homme. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus, Saint-Esprit. L'icône célèbre d'André Roubliov, qui est représenté au-dessus, représente donc ce mouvement d'amour qui unifie et qui diversifie la Trinité. Et donc ces trois anges représentent chacun une personne trinitaire. L'icône s'est surtout développée au 5e, 6e siècle. La divinité ou la sainteté d'une personne est associée au visage. Elle fait surgir une présence personnelle qui est reliée à son modèle par la ressemblance. Il n'y a ni source visible de lumière, ni ombre, ni point de fuite fermant l'espace. Le corps est souvent allongé à l'extrême et tend vers le visage qui lui-même se concentre dans le regard. À partir du XVe siècle, pour montrer que le temple chrétien reprend et accomplit celui de l'Ancien Testament, une cloison couverte d'icônes s'est installée dans les églises, l'iconostase, qui sépare et relie le sanctuaire où se trouve l'autel et la nef. L'art de l'icône, en principe sobre, est un art liturgique qui obéit à des règles strictes. Cela n'a pas empêché la créativité des artistes, ni de véritables innovations, qu'elles expriment toujours la divino-humanité. Après la crise iconoclaste, donc qui va du 8e au 9e siècle, les icônes, les fresques et les mosaïques sont plutôt hiératiques, l'accent étant placé sur le divin. C'est après la renaissance des paléologues au XIVe siècle que l'humain s'affirme bien davantage. La Grèce subit l'influence de l'Occident et réciproquement. Nous voyons donc les basiliques de Ravenne, de Venise, de Montréal en Sicile, ou encore le Duomo de Florence, et inversement la peinture religieuse vénitienne qui influence les peintres d'icônes, par exemple en Crète ou en Chypre, au XVe siècle et au XVIe. L'occupation ottomane donne un coup d'arrêt à cette création artistique, sauf en Roumanie, aux marges de l'Empire, avec un sommet de beauté et de profondeur spirituelle dans les fresques des monastères de Moldavie. Jusqu'au XIXe siècle, la tradition iconographique va s'essouffler et amène de l'Occident un flot d'images pieuses. Mais dans les années 1930, une génération de jeunes peintres grecs, marqués par l'avant-garde, va redécouvrir et redévelopper de manière créatrice l'art byzantin. Il renaît aussi cet art sacré dans la diaspora russe, notamment ici à Paris, avec les travaux du père Krug et de Leonid Uspensky. L'influence de l'icône sur d'autres arts est patente, notamment le cinéma, je pense en particulier au cinéaste russe Tarkovsky. Troisième dimension, le monachisme et l'hésychasme. Les moines sont comme l'avant-garde de l'Église dans l'orthodoxie. Ils ont toujours empêché de se confondre avec le monde. Donc, ils ne sont pas complètement à part. Il existe un seul ordre monastique, sans autre but que la contemplation, mais avec bien des aspects qui permettent de la communauté à l'érémitisme, l'errance. Et on connaît la République monastique du Mont Athos, dans le nord de la Grèce, où viennent depuis 1000 ans des moines de tout le monde orthodoxe et qui connaît un grand renouveau avec plus de 2500 moines. Les moines sont rarement des prêtres, mais souvent des pères spirituels des esprits. Pour les laïcs, ce sont des exemples et des guides. L'axe du monachisme, et en général de la vie spirituelle orthodoxe, c'est la tradition hésychaste, avec un H. Et l'hésychasme, donc ça vient de Hésychia, qui signifie la paix, la tranquillité, le calme intérieur et le silence de la rencontre avec Dieu. Donc c'est fortement proche, je dirais, de la fameuse Pax, de l'idéal des moines bénédictins en Occident. L'hésychasme, considéré comme art des arts et science des sciences, utilise une méthode spirituelle qui comporte des aspects psychosomatiques, donc l'invocation du nom de Jésus sur le rythme de la respiration pour permettre, je dirais, l'unification de l'être et la descente de l'intelligence dans le cœur, le cœur étant considéré comme le centre de la personne, où la personne peut s'unifier. Et j'en arrive à mon dernier point, la dynamique de l'Église orthodoxe dans le monde et en France. Tout d'abord, dans le monde. Le principe fondamental de l'organisation de l'Église orthodoxe est local et territorial. Un seul évêque en un même lieu, formant avec les prêtres et diacres un diocèse. Les diocèses vivent leur unité autour de centres d'accord ou de communion, dont les évêques reçoivent certaines prérogatives pour organiser la vie entre les églises locales. Et il s'agit d'abord des métropoles pour les régions, et puis des églises autocéphales. J'en ai parlé, donc 14 églises autocéphales, ou à un niveau moins élevé parfois, des églises autonomes. Les églises autonomes ont un primat dont l'élection est confirmée par le synode de l'église autocéphale. Donc l'église autonome n'est pas complètement autocéphale, n'est pas complètement indépendante. Je rappelle que la primauté épiscopale s'inscrit toujours dans un cadre synodal, c'est-à-dire qu'un primat parle toujours au nom d'un synode composé d'évêques. Les quatre patriarcats anciens que j'ai évoqués tout à l'heure, de Constantinople, Alexandrie, Antioche, qui siège à Damas, et Jérusalem, et puis le patriarcat de Moscou, érigé en 1589, et les patriarcats de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie, dont les origines remontent au IVe siècle, et puis des églises autocéphales dont le primat porte simplement le titre d'archevêque ou de métropolite, à savoir les églises de Chypre, de Grèce, d'Albanie, de Pologne, de Tchéquie et Slovaquie, soit en tout 14 églises autocéphales. Il faut évoquer, en passant, l'orthodoxie de la diaspora, c'est-à-dire des communautés qui se trouvent en dehors des frontières canoniques des églises traditionnelles, donc en Europe occidentale, en Amérique ou en Australie, où les communautés orthodoxes se sont implantées à vaste échelle. Et là, je dirais qu'il y a des diocèses qui se trouvent coexister les uns à côté des autres et qui regroupent des fidèles, en fait, des 14 églises autocéphales dont on a parlé. Autrement dit, je dirais que les églises orthodoxes de la diaspora sont en construction, mais pas encore unifiées. Évoquons en passant la dynamique panorthodoxe et conciliaire. Par panorthodoxe, qu'est-ce qu'on entend ? On entend un processus de prise de l'orthodoxie à manifester de manière concrète. Parce que la longue histoire de l'orthodoxie, comme vous l'avez compris, est faite de coupures historiques et de déchirements. Et donc, depuis les années 60, le patriarcat de Constantinople, appelé également patriarcat œcuménique, qui est le premier responsabilité, en l'absence de la communion de l'Église de Rome, a cette responsabilité de créer des dynamiques d'unité. Et pour cela, il a mis en place des conférences dites panorthodoxes qui regroupaient des représentants des différentes églises autocéphales et qui cherchent un grand concile, qui finalement s'est réuni en 2016 en Crète, mais qui a été, une semi-réussite, puisqu'il n'y avait pas toutes les églises présentes, il en manquait 4, dont notamment l'église peut-être la plus importante au plan numérique, la plus importante certainement au plan numérique, le patriarcat de Moscou. Le concile s'est tout de même réuni et il a adopté des documents sur des thèmes, d'importance pastorale et éthique, notamment concernant l'organisation de la diaspora et la mission de l'orthodoxie dans le monde contemporain. Donc c'est un premier pas vers un travail d'unification des différentes églises. Mais je terminerai ce affect depuis avril 2018, les relations entre deux églises autocéphales orthodoxes, le patriarcat de Moscou et celui de Constantinople, parce que le 7 janvier 2019, Constantinople a décidé d'accorder l'autocéphalie au patriarcat de Kiev, c'est-à-dire l'église orthodoxe d'Ukraine, qui jusque-là était autoproclamée depuis 1991, donc l'indépendance, et qui n'était pas reconnue, qui n'était pas reconnu par les églises orthodoxes dans le monde. Et donc c'est une décision évidemment avec des implications politiques importantes qui a été prise. Et il y a deux séquences, Moscou a déclaré rompre la communion avec Constantinople. Donc ce contentieux ecclésiologique est problématique. Les autres églises autocéphales, en général, ne se sont pas prononcées, mais sont réservées par rapport à la reconnaissance de la 15e petite église autocéphale qui est cette église orthodoxe d'Ukraine. Je terminerai par l'église orthodoxe en France. La présence orthodoxe en France date de deux siècles, puisque en 1816, une chapelle orthodoxe russe fut ouverte à Paris, et qu'en 1821, une autre fut ouverte à Marseille, pour la communauté grecque locale. Et je dirais que cette diaspora orthodoxe date surtout du 19e siècle, après la révolution russe, lorsque beaucoup de Russes sont arrivés en Occident, et qu'a été fondé notamment cet institut de théologie orthodoxe en 1925. Alors, toutes ces juridictions orthodoxes coexistent sur le territoire français comme ailleurs dans les pays de diaspora, et depuis, d'unification et de consensus a été fait, puisqu'on a créé en 67 un comité interépiscopal réunissant les différents évêques orthodoxes qui s'est ensuite transformé en 1997 en une assemblée des évêques orthodoxes de France. Elle est présidée traditionnellement par le métropolite du patriarcat France actuellement, Mgr Emmanuel. Vous allez peut-être le rencontrer,
oui, si ce n'est fait. En avril
prochain. D'accord, très bien. Et donc, cette Assemblée des évêques orthodoxes de France, AEOF, comprend 11 autres évêques de toutes les églises autocéphales. Dont... Je terminerai en soulignant quelques données. On estime qu'il y a sur le territoire français environ 500 000 orthodoxes de différentes origines, dont certains français d'ailleurs, comme celui qui vous parle. Et puis, il existe 280 lieux de culte disséminés dans toute la France, dont une vingtaine de communautés monastiques. Il y a une certaine croissance, puisqu'en 2010, il y avait seulement 238 lieux de culte. Les plus récemment créés étant sans doute des églises, enfin des paroisses de l'église orthodoxe roumaine. Je souligne qu'une fraternité orthodoxe en Europe occidentale rassemble, c'est une association loi 1901, rassemble des clercs et des laïcs de différentes juridictions depuis les années 60-70 pour donner un témoignage commun de l'orthodoxie dans l'attente de recevoir une organisation canonique unifiée et que cette fraternité orthodoxe organise tous les trois ans, des congrès triannuels. Le dernier s'est tenu en 2010. Vous serez mes témoins avec environ 600 participants. Voilà, il existe différentes émissions pour la télévision, Orthodoxie, une émission sur France 2, l'Orthodoxie ici et maintenant sur la chaîne KTO, sur France Culture Orthodoxie également, et puis le réseau RC Orthodoxe, et enfin un site diffuseur d'informations sur l'orthodoxie, orthodoxie.com. Je conclus en soulignant que l'Église orthodoxe est aujourd'hui présente sur tous les continents, et la rencontre de l'orthodoxie et de l'Occident, grâce notamment aux différentes diasporas, constitue sans conteste et que je pense que le dialogue entre les deux poumons de la chrétienté doit se poursuivre dans la quête patiente d'un retour à l'unité visible. En tout cas, c'est le vœu, des enseignants de cet institut.
Merci Michel. Merci d'avoir...
Merci.